en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les Académiciens, Mesdames et Messieurs. Alors je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je crois que les occasions de faire part du retour d'expérience des grandes entreprises françaises ne sont pas si fréquentes. Elles n'en sont que plus utiles. Utiles pour nous, bien sûr, puisque cela me permet de mettre en forme tout ce qui peut expliquer les raisons d'être, les succès et les défis de l'entreprise que je dirige. Mais utile également, je l'espère pour vous, qui consacrez votre temps et vos efforts à l'étude de l'homme. Or, le développement d'une entreprise est bien avant toute autre chose, une aventure à hauteur d'homme. Alors, derrière la simplicité apparente du sujet, que je préciserai un tout petit peu, le sujet qu'on m'a donné, c'est un leader d'origine française dans un monde qui change. Et donc, je vais essayer de traiter de ce sujet qui cache en réalité deux questions qui renvoient à une réalité autrement plus compliquée. Comment devenir un leader mondial quand on est un groupe français? Et surtout, comment le rester alors que la vitesse à laquelle le monde bouge a tellement augmenté? Ces deux questions concernent toutes les entreprises françaises qui occupent des positions importantes dans leur métier et même toutes celles qui ont l'ambition de devenir un jour leader. Je ne crois donc pas que l'on puisse apporter de réponse définitive ni universelle à aucune de ces questions. Ce que je crois en revanche, c'est que le groupe Lafarge a pu leur trouver des réponses intéressantes. Nous sommes en effet depuis longtemps dans les premiers mondiaux de notre métier, qui est de fournir des matériaux nécessaires à la construction. Nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 15 milliards d'euros. Nous sommes implantés dans 64 pays. Nous avons à peu près 65 000 salariés. Et je suis d'autant plus heureux de partager ces réponses avec vous aujourd'hui que nous avons mis en place ces dernières années une transformation dont l'ambition est de nous permettre de conserver cette position sur le long terme. Et je voudrais commencer en abordant de front la question de la nationalité française. Être français, est-ce un avantage ou un inconvénient pour devenir leader mondial? Cette question entraîne un court détour. Que veut dire pour une entreprise être français? Cela ne veut plus dire être possédé par des capitaux français, parce que nombre de grands groupes français appartiennent majoritairement à des capitaux étrangers. Et la mise en place des nouvelles réglementations financières, et notamment celle de Insolvency II, ont accéléré cette évolution, vous le savez. Donc au sens le plus strict, être français signifie donc aujourd'hui, pour une entreprise, avoir son siège social en France. Alors cela a-t-il vraiment une importance? La réponse est oui. Parce que la nationalité d'une entreprise, ou le lieu de son siège, a une influence certaine sur un grand nombre de décisions concrètes. Toutes les politiques, qu'elles soient d'emploi, les choix d'investissement, la localisation des centres de recherche, des centres de production, la prise en compte de la fiscalité, bien entendu. Il s'agit donc d'un enjeu non négligeable. Il fut une époque, pas si lointaine, où être français ne représentait pour une entreprise que des avantages. Nombre de ces avantages demeurent, mais certains d'entre eux souffrent aujourd'hui d'une dilution plus ou moins brutale. Je veux parler bien sûr de l'instabilité fiscale, je veux parler également de l'image pays de la France, qui était très attractive mais qui s'est dégradée depuis une dizaine d'années, et l'on voit quand on voyage. Le célèbre classement Doing Business, établi par la Banque mondiale, a fait passer la France de la 31e à la 38e place en seulement 3 ans, entre 2010 et 2013. La France a perdu en 2012 son triple A auprès des 3 agences de notation. Et la lecture souvent caricaturale que font les médias étrangers de la politique française n'arrange évidemment rien. Ce qui n'arrange rien non plus, c'est le déficit qu'on observe en France en termes de culture d'entreprise, tant dans la sphère éducative que dans le monde politique ou médiatique. Tout cela est certes connu, mais pourtant bien réel. Et ces privilèges appartiennent donc peu ou prou au passé. Mais Lafarge continue néanmoins de retirer de ses racines françaises des avantages que je considère déterminants. Le premier, c'est que la France est un pays d'ingénieurs et d'inventeurs. Ce n'est pas vous que je surprendrai en disant cela. Ce n'est pas un hasard si Lafarge est né dans un pays où l'école des ponts et chaussées existe depuis 1775. Ce n'est pas un hasard si Lafarge a grandi dans un pays qui a inventé le cinéma, le moteur à explosion ou la carte à puce. C'est pas non plus un hasard si Lafarge reste aujourd'hui fidèle à un pays qui a remporté autant de médailles Fields que les États-Unis à une unité près. Le second avantage que je vois tient à ce que la France regroupe tout ce qui compte en matière de construction. D'abord le climat, qui peut être chaud ou froid, donc des problématiques de construction extrêmement variées. De grands architectes, d'Auguste Perret à Rudy Ricciotti, en passant par Le Corbusier, des bâtisseurs visionnaires tels que Vauban ou Haussmann, des leaders mondiaux dans le BTP, dans l'urbanisme ou dans les matériaux de construction. Tout cela prend sa source dans une tradition plurimillénaire de réalisation de projets hors normes, des arènes de Nîmes à Notre-Dame d'Amiens, sans parler du Pont du Gard, de la Tour Eiffel, de la BNF ou encore tout récemment du MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille que vous voyez sur les écrans. Permettez-moi à ce propos de souligner que l'ensemble des talents et des matériaux nécessaires à la construction de ce merveilleux monument, à laquelle Lafarge a pris toute sa part parce qu'il en a inventé les principaux matériaux, ont été trouvés ou inventés dans un rayon de 25 km autour de Marseille. Le troisième avantage tient à la tradition universaliste de la France. Elle avait hier le deuxième empire le plus étendu derrière celui du Royaume-Uni. Elle a aujourd'hui le deuxième réseau diplomatique le plus important derrière celui des États-Unis. Et cette tradition, qui a l'air comme cela peu importante, fait que les Français sont ouverts aux autres. Et elle fait surtout que les Français sont reconnus par les autres. Et ceci aussi, je le constate dans tous mes voyages. Cela a une conséquence dont la portée ne doit pas être négligée. Pour s'internationaliser, la nationalité ou le pays d'origine joue un rôle clé. Et la nationalité française ou l'origine française est toujours l'une des plus avantageuses au monde. Le quatrième avantage est lié à une réalité parfois méconnue des Français, mais pas de vous, parce qu'elle est paradoxale. Proportionnellement à sa taille, la France compte un très grand nombre de leaders mondiaux. Nous plaçons 31 entreprises dans le premier classement des 500 premières entreprises mondiales. C'est 2 de plus que l'Allemagne, 5 de plus que le Royaume-Uni et 24 de plus que la Russie. Les Français n'aiment pas leurs grandes entreprises, mais leurs grandes entreprises réussissent. Le cinquième et le dernier avantage est probablement pour Lafarge le plus déterminant. Cet avantage n'est pas tangible, ce n'est pas une situation géographique, ni une réalité chiffrée. Cet avantage est essentiellement français au sens le plus littéral du terme. Cet avantage, c'est la culture humaniste de la France. Je veux d'abord parler de celle qui provient de ses racines spirituelles et qui fait que l'attention à l'autre est une vertu, que le travail n'a de sens que s'il est bien fait, que l'individu est une part indivisible d'une communauté. Mais je veux également parler de la culture républicaine, héritée de notre passé plus récent, celle qui fait que chaque homme a une valeur strictement égale à celle des autres, que la fraternité n'est pas un vain mot, que la culture dans laquelle sont élevés les Français n'est pas loin d'être une culture universelle, c'est-à-dire comprise et admise par tous. Tous ces avantages font que la France demeure pour Lafarge une vitrine de notre organisation. C'est pour cela que nous conservons notre siège social, alors que nous n'y réalisons plus qu'un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Cela m'amène au second point que je voudrais développer devant vous, celui du leadership. Je crois en effet que Lafarge a construit un leadership qui lui est propre et qui tient à la personnalité de notre entreprise. Je crois aussi que le mouvement du monde doit amener à remettre en cause la définition même du leadership, et j'y reviendrai. Le premier pilier d'une entreprise leader est celui de l'excellence professionnelle. Tous les compartiments de notre métier doivent être parfaitement maîtrisés, depuis l'implantation dans une géographie nouvelle jusqu'à la production de l'ensemble de notre gamme de matériaux, sans oublier bien sûr la distribution, les relations avec les clients ou encore la surveillance qualité. Ce pilier est commun à toutes les entreprises les plus performantes et je ne crois pas qu'aucun leader d'aucun secteur puisse faire l'économie de l'excellence professionnelle. Lafarge le complète par une excellence qui lui est propre, sa capacité à s'adapter et à s'intégrer dans les pays ou les situations réputées les plus difficiles ou les plus compliquées. Cette compétence, acquise lentement et avec une remarquable persévérance, nous permet de relever avec confiance des défis de plus en plus exigeants. Je pense au Nigeria, qui est un pays capital pour le groupe, où j'étais il y a 3 jours. Il y a 10 ans, nous ne savions pas si nous serions capables d'atteindre au Nigeria le même niveau de performance que dans nos meilleures usines mondiales. Et c'est pourtant le cas aujourd'hui. 95% de nos collaborateurs au Nigeria sont nigérians, et cela n'empêche pas qu'un Polonais, extrêmement performant, dirige désormais notre activité industrielle dans le nord du pays. Un Polonais au Nigeria, ce n'est pas une recette classique, mais c'est bien l'exploitation de la diversité du groupe, et celle-ci nous fait progresser. Un autre exemple, en Algérie, où nous sommes arrivés en 2008, comme dans chaque nouveau pays, nous avons petit à petit appris à opérer dans ce pays en plein essor. Nous avons assez rapidement pu y déployer nos meilleurs standards et constituer des équipes algériennes de très bon potentiel. J'y ai inauguré il y a 2 semaines un laboratoire de développement qui fait de l'Algérie une des vitrines de la recherche et de l'avancement technologique de Lafarge. Il y a encore beaucoup d'autres pays dont je pourrais parler et qui sont exactement la même chose. Ceci m'amène au deuxième pilier du leadership d'une entreprise qui est à mes yeux celui de la différenciation. Après tout, un leader est par définition quelqu'un qui est suivi. Il faut donc pour cela savoir devancer ses concurrents, être au final celui qui fait la trace de son métier. L'innovation, qui est le moteur de notre différenciation, est très profondément ancrée dans la tradition de Lafarge. Le premier laboratoire mondial de recherche spécialisé dans le ciment a été créé par Lafarge en 1887. Le ciment blanc, qui a été mis au point et qui a par exemple été utilisé en 1903 pour la façade du New York Stock Exchange, a été mis au point par Lafarge. Notre complexe de l'île d'Abo, qui est notre centre de recherche d'aujourd'hui, est aujourd'hui le plus grand centre de recherche au monde en matière de matériaux de construction. Il regroupe 250 chercheurs d'une quinzaine de nationalités différentes et il gère un portefeuille de plus de 1000 brevets et licences. Nous avons noué des partenariats avec les institutions de recherche les plus prestigieuses au monde, du MIT au CNRS, en passant par l'École Polytechnique de Lausanne ou encore l'Indian Institute of Science de Bangalore. Grâce à ces efforts, notre béton a tout simplement cessé d'être un matériau banal. Ses possibilités d'évolution sont infinies. Notre béton est aujourd'hui un matériau hautement technologique, durable, performant et esthétique. Nous avons ainsi mis au point des bétons extrêmement résistants pour construire les fondations des bâtiments les plus imposants. Nous avons des bétons ultra légers pour bâtir les étages élevés des tours les plus hautes. Nous avons des bétons exceptionnellement solides pour résister aux catastrophes naturelles, quelles qu'elles soient. Nous avons des bétons qui résistent aux inondations en favorisant le drainage de l'eau. Nous avons des bétons tellement isolants qu'ils permettent de construire des habitations autonomes en énergie. Et nous avons des bétons qui absorbent le CO2 même dans les zones obscures, ce qui est un vrai challenge. Nous avons des bétons tellement beaux qu'ils permettent de donner vie aux rêves des architectes les plus visionnaires, comme vous l'avez vu sur le MUCEM. Cette culture de l'innovation a été croisée avec notre ouverture internationale. Nous avons ainsi ouvert des construction labs, c'est-à-dire des laboratoires de développement, en France, en Chine, en Inde, tout récemment en Algérie, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont pour mission d'adapter les solutions de Lafarge aux pratiques traditionnelles en matière de construction et aux problématiques locales, parce que la construction est toujours une activité extraordinairement locale. Ainsi, en Inde, la configuration des bidonvilles, avec leur entrelacement de milliers de ruelles, à peine assez large pour laisser deux piétons se croiser, rendait impossible l'acheminement du béton. Aucun camion toupie ne pouvait pénétrer dans ces quartiers, le béton ne pouvait pas non plus être amené à dos d'homme, il aurait fait prise avant d'arriver à destination. Les habitants ne pouvaient donc pas remplacer leurs cabanes bricolées avec des produits de récupération par de vraies constructions en dur. Notre laboratoire de développement indien a pourtant trouvé une solution. Il a inventé un béton à prise retardée qui est conditionné en seaux de 15 litres, eux-mêmes livrés par des petits tricycles motorisés, et les seaux en 15 litres sont devenus des sacs en plastique. Tout l'esprit de Lafarge est réuni dans cet exemple, une solution innovante, adaptée aux nécessités et à la culture locale pour des constructions plus durables et abordables, y compris pour les populations les plus démunies. Le savoir que nous avons ainsi acquis sera sans nul doute redéployé, réemployé, sous une forme peut-être différente, aux endroits de la planète confrontés aux mêmes problèmes. Mais cela sera toujours fait avec le souci de créer des solutions parfaitement adaptées, adaptées aux favelas brésiliennes, aux townships sud-africains où j'étais la semaine dernière, ou aux bidonvilles philippins. Adaptées également aux maçons nigérians ou indonésiens, car Lafarge est une organisation apprenante et c'est une condition pour conserver son leadership. Les bonnes pratiques sont rapidement identifiées et tout aussi rapidement mutualisées. Nous restons toujours à l'écoute de nos équipes locales. C'est pour cela que leur diversité est notre richesse. C'est grâce à elles que nous offrons des solutions de plus en plus mondiales pour maximiser les économies d'échelle et de plus en plus locales pour qu'elles correspondent parfaitement aux besoins de nos clients. Le troisième et dernier pilier du leadership, tel que nous le concevons chez Lafarge, est celui de nos valeurs. J'ai expliqué que les nôtres sont intimement liés à notre origine et à nos racines françaises. Pourquoi est-ce important pour nous ? Parce que notre activité est une activité de process, c'est une activité très technique, certes, pourtant ce n'est pas la machine seule qui fait la performance. Celle-ci passe avant tout par les hommes et les équipes. Par ailleurs, le poids des matériaux de construction que nous produisons interdit de les déplacer sur de longues distances, ce qui les rendrait trop coûteux. Ils doivent donc être produits au plus près de leur lieu d'utilisation finale, et cela veut dire que nous produisons localement dans chacun des 64 pays dans lesquels nous sommes présents. Tous ces sites de production composent une architecture humaine et technique qui ne serait pas viable sans un corpus de valeurs extrêmement fort. C'est le socle de la réussite de Lafarge. Mais ce ne doit pas seulement être des valeurs affirmées, elles doivent s'incarner de manière très concrète dans l'activité quotidienne de notre entreprise et nous nous y employons. À mon sens, une entreprise leader est en effet une entreprise qui sait faire preuve de responsabilité. Nous sommes une industrie lourde. Notre activité a un impact important sur l'environnement. Elle représente environ 5% du total des émissions de CO2 dues à l'activité humaine. Nous en avons pris conscience très tôt sous l'inspiration de Bertrand Collomb. C'est grâce à lui que nous avons décidé d'assumer cette empreinte et de travailler à la réduire. Il a ainsi décidé de la participation de Lafarge au sommet de Rio, pas celui qui a eu lieu il y a un an et auquel se sont pressées toutes les entreprises de la Terre désireuses de montrer qu'elles avaient enfin compris que la dégradation de l'environnement était un sujet. Je veux parler du premier sommet de Rio, celui qui a été organisé en 92, quand la prise de conscience du danger environnemental était encore dans les limbes et Bertrand Collomb s'y est rendu en personne. Mais nos efforts ne consistent pas seulement à participer à des sommets ou à nouer des relations étroites avec les ONG. Nous prenons des engagements et nous les respectons. Entre 90 et 2010, nous avons ainsi réduit de plus de 20% nos émissions de CO2 par tonne de ciment produite. Nous ne souhaitons pas pour autant nous reposer sur nos lauriers, car nous savons que la force de notre leadership dépend de notre capacité à maintenir nos efforts. Nous avons donc pris pour l'avenir des engagements plus ambitieux encore. Nous voulons faire croître notre contribution nette à la société et à l'environnement à l'horizon 2020. 34 indicateurs concrets nous aident d'ores et déjà à mesurer notre progression. Ils sont l'incarnation exigeante de notre éthique de responsabilité. Nos valeurs humanistes, que j'ai énoncées un peu plus haut, et plus généralement l'attention que nous portons à la personne, sont également mises en œuvre de manière très concrète dans la vie de notre entreprise. C'est vrai depuis sa fondation. Ainsi, être responsable, c'est aussi chez Lafarge garantir la sécurité de nos collaborateurs, de nos sous-traitants et de toutes nos parties prenantes en général. Notre exigence de sécurité est totale à chaque instant dans chacune de nos installations. Permettez-moi de vous donner un seul exemple. Un salarié du groupe Lafarge saurait reconnaître n'importe quelle usine de notre groupe entre mille, non pas parce que le nom de l'entreprise figure sur le mur, puisque je parle ici de l'intérieur de l'usine, non pas parce que toutes nos usines sont construites sur les mêmes plans, puisqu'elles sont largement différentes les unes des autres, il la reconnaîtrait au premier coup d'œil grâce à la signalétique de sécurité. Elle est omniprésente et elle est rigoureusement la même partout, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Et l'accent que j'ai mis sur la prévention et la sécurité a permis cela. La baisse drastique du nombre d'accidents qui en a résulté est un sujet de fierté, tout en demeurant une préoccupation de tous les instants. Ceci explique aussi pourquoi, et ceci nous distingue de nos concurrents, même occidentaux, nous avons développé une bonne qualité de dialogue avec les syndicats internationaux. Ce socle de valeurs nous permet de gérer des implantations particulièrement lourdes dans des régions souvent sans expérience industrielle, au sein des cultures les plus diverses. Tous nos dirigeants ont une expérience internationale, parce que nous exigeons d'eux avant toute chose qu'ils apprennent à aimer la différence. Je me souviens toujours avec bonheur des 5 ans que j'ai passés en Turquie, entre 1990 et 1994. Ils sont à la source de beaucoup d'orientations prises depuis par le groupe. Cette culture que nous mettons chaque jour en œuvre n'est pas une culture philanthropique. C'est, je crois, la principale raison de l'adhésion à Lafarge de nos collaborateurs. On dit que la réalité du marché du travail est aujourd'hui d'avoir des carrières professionnelles hachées. On dit que 3 ans est une durée suffisante pour avoir fait le tour d'une entreprise avant d'en rejoindre une nouvelle. Je ne connais pas cette réalité. Chez nous, les carrières durent des décennies. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout. Je ne donnerai qu'un exemple. En Chine, le turnover est chez nous moitié moins important que chez nos concurrents. Ceci résume et illustre en quoi les valeurs sont une source essentielle de leadership et de réussite. Une entreprise leader reste une entreprise tout court et donc essentiellement une aventure humaine. Et c'est notre force que de l'avoir bien compris depuis l'origine. Je me résume, excellence professionnelle, différenciation par l'innovation et socle de valeurs fortes et partagées, tels sont donc les 3 piliers du leadership de Lafarge, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Si je fais une différence entre l'un et l'autre, c'est parce que je pense en effet que la manière dont on mesurait le leadership dans le monde d'hier ne rend plus compte de manière satisfaisante du leadership d'aujourd'hui et encore moins de celui de demain. La mesure du leadership d'hier, c'était celle des volumes, le tonnage le plus élevé ou bien le plus grand nombre d'employés. Ce leadership s'appuyait sur des stratégies de croissance tous azimuts et se traduisait donc évidemment par des acquisitions. Lafarge a couru et a même souvent remporté cette course à la taille. Toute l'histoire de l'internationalisation de notre groupe dans les 25 dernières années est en effet une histoire d'acquisition. Nous avons acheté beaucoup d'entreprises locales depuis nos débuts à l'international, au Canada et au Brésil, dans les années 1950 jusqu'à l'acquisition de l'entreprise Orascom en 2008. Mais je crois que la taille n'est plus le seul, ni même le principal critère pertinent pour ériger une entreprise en leader de son secteur. Le monde a changé, il change de plus en plus vite, et la manière dont on évalue le leadership doit changer avec lui. C'est à la fois une nécessité et une conviction. Une nécessité parce que l'entrée en puissance de la Chine ou de l'Inde sur le marché mondial a totalement rebattu les cartes en termes de volume. En termes de taille, ces deux pays disposent d'un avantage absolu évident et probablement imparable. Si l'on se contente de classer les entreprises par taille, il y a donc fort à parier que beaucoup des leaders mondiaux seront chinois, indiens ou nigérians d'ici quelques décennies, y compris dans certains secteurs à forte intensité technologique. Mais la nécessité de réviser la définition du leadership est également une conviction très forte. Je crois que le leadership doit plus que jamais se mesurer à l'aune de la capacité d'une entreprise à être en avance. En avance sur ses concurrents, évidemment, mais également en avance sur les besoins de ses clients, y compris dans le ciment. Alors bien sûr, selon le métier de chacun, être en avance ne signifie pas la même chose. Ce qui est certain, c'est qu'il y a le gros manger le petit. Aujourd'hui, cela a changé. C'est par exemple parfois le plus rapide qui mange le plus lent. Pour nous, être en avance signifie anticiper les évolutions profondes du monde dans lequel nous vivons. Le monde change, certes, mais dans quel sens, à quelle vitesse, quel sera son visage dans 20, 30 ou 50 ans? C'est ce travail d'analyse qu'il faut conduire et dont surtout il faut tirer les conclusions. Le monde sera d'abord plus peuplé. Les dernières projections de l'ONU tapent sur plus de 9 milliards d'humains en 2050, contre 7 milliards aujourd'hui. Certains parlent même de plus de 10. Ce sont autant de personnes qu'il faudra nourrir, loger, connecter. Le monde sera plus divers, cette évolution-là est déjà bien perceptible. En à peine plus d'une décennie, son centre de gravité s'est déplacé vers l'Est et vers le Sud. La dernière superpuissance, les États-Unis, est challengée de manière de plus en plus sérieuse par les pays émergents. Je crois d'ailleurs que beaucoup de régions de ces pays ont déjà, d'ores et déjà, émergé. Il suffit de se rendre à Shanghai ou à Bangalore pour en prendre conscience de la façon la plus évidente qui soit. Le monde de demain sera donc un monde multiple. Cela implique que le pouvoir d'influence du bloc occidental aura diminué. Il n'y aura donc pas un métier sur lequel les entreprises du Nord ne seront pas sérieusement concurrencées par celles du Sud. Le monde sera plus global, avec des individus plus mobiles et interconnectés. Cela est très bien connu. Mais paradoxalement, le monde sera aussi plus local. Les capacités offertes à un nombre sans cesse plus important de personnes de communiquer sans se déplacer auront pour effet d'accentuer la sédentarisation des communautés. La perte de pouvoir des États centraux est déjà souvent contrebalancée par l'influence grandissante des communautés locales, et on voit cela aussi bien dans les pays émergents que dans les pays développés. Une certaine culture globalisée se répand jusqu'en dans les contrées les plus reculées, mais les cultures locales font de la résistance et ne disparaîtront pas. Je ne serais même pas étonné que nombre d'entre elles sortent renforcées de cette confrontation. L'ancrage local continuera donc de susciter le sentiment d'appartenance le plus puissant. Ceux qui se définissent d'abord et avant tout comme des citoyens du monde resteront une minorité. La globalisation suscite paradoxalement un besoin de préférence locale accru. Le monde sera aussi affecté par le changement climatique, il sera plus chaud et l'environnement sera davantage menacé. La diversité naturelle se réduit en effet d'année en année. Les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sont chaque jour plus alarmants. Ils décrivent une trajectoire de réchauffement climatique extrêmement inquiétante. On sait déjà qu'il sera difficile et probablement même impossible de limiter le réchauffement global de la planète à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est pourtant un seuil au-delà duquel les conséquences seront potentiellement dramatiques, sans que l'on sache précisément quels seront les effets de cliquet les plus dangereux, montée des eaux, expansion des zones désertiques. Recrudescence de la quantité et de l'intensité des catastrophes climatiques dont on a l'impression qu'elles rythment déjà tragiquement l'actualité. Quel que soit le prix de l'action, on sait que le coût de l'inaction sera bien plus élevé. Et notre réaction collective est pourtant encore loin d'être à la hauteur. Cela ne doit pas conduire au découragement, mais à la mobilisation. Et surtout, je voudrais dire que le monde sera plus urbain. Je termine par cette dernière caractéristique pour deux raisons. D'abord parce que cette évolution est en fait une synthèse de tous les mouvements à l'œuvre. Et ensuite parce que vous l'imaginez, l'urbanisation est au cœur des préoccupations de Lafarge pour aujourd'hui et plus encore pour demain. Le phénomène d'urbanisation n'est évidemment pas récent. puisqu'en un siècle, le nombre d'urbains a déjà été multiplié par 12. Depuis 2009, plus de la moitié de la population mondiale vit dans un environnement urbain. Mais l'urbanisation est un phénomène qui s'accélère et dont on peine parfois à imaginer toutes les conséquences. Chaque jour, une surface équivalente à la superficie de Paris, soit 110 km², est urbanisée. Il y aura 5 milliards d'urbains en 2030, soit 1,5 milliard de plus qu'aujourd'hui. À cette date, les villes du Sud abriteront 80% de la population urbaine mondiale. Ces quelques chiffres, pris parmi 1000 autres, tout aussi stupéfiants, donnent une idée de l'ampleur des mouvements à l'œuvre. Les villes, qui sont parfois déjà saturées, polluées et fracturées, devront devenir plus compactes, plus accueillantes, plus connectées, plus durables, plus belles, en un mot, meilleures. Et cela tout en continuant d'accueillir des dizaines de millions de nouveaux urbains chaque année. Notre ambition est de les y aider. Je suis en effet profondément convaincu que l'avenir de la ville passe par les entreprises. Le pays ou la municipalité qui aurait à lui ou à elle seule toutes les cartes en main pour bâtir une ville meilleure n'existe plus. Pour nous donner les moyens de cette ambition, nous avons entamé une profonde transformation dans l'entreprise et c'est pour cela que nous avons décidé d'accroître significativement nos efforts de recherche et de développement qui se sont rapidement traduits par de nouvelles innovations. C'est également en raison de cette transformation que nous avons revendiqué avec plus de force encore notre tradition de pionnier. Être pionnier, c'est au final être non seulement là où ça compte, mais surtout là où ça va compter. Pour nous, et compte tenu du fait que la quasi-totalité de l'urbanisation à venir aura lieu dans les villes des pays émergents ou en voie de développement, cela a bien sûr conduit à un rééquilibrage de la répartition de nos activités. Ainsi, l'ensemble Europe de l'Ouest plus États-Unis représentait 90% de nos ventes en 1990, et ne représente plus que 40% aujourd'hui. 60% de notre activité est maintenant réalisée dans les pays à forte croissance, dans les pays émergents, sans qu'aucun d'entre eux ne dépasse 5% du total. Nous sommes aujourd'hui fin prêts à contribuer à la construction de villes meilleures, et ce n'est pas un hasard s'il s'agit littéralement de notre nouvelle signature, construire des villes meilleures. La ville meilleure, comment sera-t-elle ? Elle sera plus compacte et plus dense. Nous savons que le mouvement d'étalement urbain n'est pas la panacée, tant il introduit de contraintes en termes de mobilité, de répartition des aménagements, de coûts des aménagements ou de disponibilité foncière, tant il constitue également une menace pour les terres agricoles et les espaces vierges. Pour bâtir des villes plus compactes, il faudra construire des édifices plus hauts. Ces bâtiments ne devront pas pour autant être plus exposés que les autres aux catastrophes qui ont dévasté la Nouvelle-Orléans, Aquila ou Fukushima. Nous disposons pour cela de tous les bétons dont j'ai parlé. C'est grâce à ces produits et ces solutions que la plus haute tour d'habitation du monde est en train de voir le jour à Bombay, en Inde. La ville meilleure sera plus durable, dans le sens qu'elle devra à terme avoir sur l'environnement une empreinte sinon positive, du moins neutre. Cela nécessite, en ce qui concerne la construction, d'adopter une approche en termes de cycle de vie des matériaux et des bâtiments. Pour le dire autrement, cela veut dire que la comparaison des empreintes environnementales des différents matériaux, solutions et bâtiments doit englober toute leur durée de vie. Elle doit comprendre le moment de la production, le moment du transport, le moment de la construction, le moment de la gestion durant toute la durée de leur vie et le moment de leur démolition et de leur recyclage, si c'est possible. Cette approche, qui me semble être indiscutable, produit des résultats parfois contre-intuitifs. Ainsi, dans la plupart des situations, le béton est un matériau plus durable et plus vert que tous les autres, y compris le bois. La ville meilleure sera plus accueillante. Elle devra pourvoir au logement abordable et décent d'un nombre toujours plus grand d'urbains. Il faut donc prévoir des méthodes de construction qui soient rapides, standardisées, fiables et peu coûteuses. C'est exactement la démarche adoptée par Lafarge, aussi bien dans les bidonvilles indiens que dans la construction en cours de logements sociaux innovants à Bègles, en Gironde, caractérisés par leur modularité et la présence de jardins à tous les étages. La ville meilleure sera plus connectée. La mobilité dans la ville et vers la ville est à l'évidence un enjeu de toute première importance du XXIe siècle. Ce sont nos solutions, notamment en termes de logistique, qui est un sujet déterminant pour les plus grands chantiers qui ont été adoptés pour la construction d'une troisième ligne de métro au Caire ou pour la réalisation au Canada du pont le plus large du monde avec 10 voies de circulation. La ville meilleure sera enfin plus belle et vous seriez surpris par les potentialités esthétiques quasi illimitées de nos bétons et de nos solutions les plus nobles. Ce sont eux qui habillent par exemple le nouveau stade Jean-Bouin à Paris ou le Mucem à Marseille, dont je vous ai déjà parlé, ou qui permettront de mener à bien la rénovation de la citadelle irakienne d'Erbil, une des plus anciennes villes de l'histoire restée continuellement habitée. Ce dernier projet est un beau symbole de ce que toutes les villes, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui, peuvent devenir des villes meilleures. Le fait que Lafarge soit ainsi positionnée pour contribuer à toutes les facettes d'une ville meilleure traduit en creux l'objectif implicite de notre transformation. Nous passons d'un rôle de fabricant de matériaux à celui de fournisseur de solutions de construction. Cela nous permet d'apporter aux problèmes posés des solutions les plus satisfaisantes et les plus personnalisées, dès lors que nous intervenons de plus en plus en amont de tous les projets. Cela nous autorise à remonter la chaîne de valeur, puisque nous fournissons des services et plus seulement des matériaux, puisque nos interlocuteurs sont désormais aussi les architectes, les pouvoirs publics et les clients finaux, et plus seulement les entreprises de maîtrise d'ouvrage. Surtout, cela garantit notre capacité à être en avance sur nos concurrents et en avance sur les besoins de nos clients. Cela fonde une croissance organique durable. Mon rêve est proche de ne plus avoir besoin de procéder à des acquisitions pour grandir. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je suis si fier de diriger cette magnifique entreprise. Et voilà les raisons pour lesquelles nous avons l'ambition de demeurer le leader mondial de notre secteur. Voilà surtout pourquoi notre signature construite des villes meilleures veut dire en substance que l'avenir nous appartient. Être un leader est un combat de chaque instant, qui n'est jamais gagné. De chaque instant parce qu'il faut savoir remettre régulièrement en cause l'ensemble de ses certitudes. Un combat qui n'est jamais gagné parce que l'histoire économique est remplie d'entreprises parfois leaders, autrefois leaders, mais qui ont été dépassées par la vitesse avec laquelle le monde bouge. Être un leader finalement nécessite donc avant tout de savoir se poser les bonnes questions. Quel sera le monde de demain, celui d'après-demain? Qui seront nos clients? De quoi auront-ils besoin? Qu'est-ce que les gouvernements, qu'est-ce que les États, qu'est-ce que les communautés attendent de leurs entreprises? Quelle est la responsabilité de notre entreprise dans la construction de ce monde en devenir? C'est grâce à ces valeurs propres qu'une entreprise peut espérer apporter à chacune de ces questions une réponse adéquate. Et c'est grâce à ces équipes qu'une entreprise peut espérer mettre en œuvre ces réponses de manière satisfaisante. Et c'est aussi, bien sûr, grâce à des échanges comme celui-ci que nous avons aujourd'hui, qu'une entreprise peut prendre le temps de s'interroger sur elle-même et mieux appréhender l'évolution d'un monde face auquel elle doit inlassablement s'adapter. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre invitation et pour votre attention.
Merci pour cet exposé où vous nous avez montré la façon dont l'entreprise doit s'adapter à ce monde qui change. C'était bien le sujet de la présentation et vous avez donné une fresque assez impressionnante de ces changements et de la façon dont l'entreprise s'y adapte. Alors, il y a beaucoup de questions. Michel Pedreau.
Merci, Monsieur le Président. Effectivement, cette présentation était fort intéressante à propos d'un groupe qui est un leader mondial aujourd'hui. Et je voulais poser deux questions relatives justement à cette position. La première, c'était de savoir quels sont aujourd'hui les grands concurrents mondiaux de Lafarge et comment s'établit la concurrence avec eux. Et ma deuxième question était relative à l'Europe. Bruno Lafont n'a pas parlé pratiquement de l'Europe, ce qui m'a beaucoup frappé dans son exposé par rapport à d'autres exposés que nous avons eus cette année. Et donc je voulais lui demander comment l'Europe se situait dans sa stratégie actuelle. Merci.
Alors, la question des concurrents. Lafarge a un concurrent comparable qui s'appelle Holcim, qui est un Suisse, qui a commencé son internationalisation très tôt dans l'histoire. Et la comparaison entre les deux, Lafarge et Holcim, c'est principalement une comparaison de portefeuille géographique. Nous avons à peu près le même poids dans les pays émergents. Holcim est beaucoup plus en Amérique latine et en Inde, et Lafarge est beaucoup plus en Afrique et au Moyen-Orient. La deuxième, c'est sur l'innovation. Je dirais que là, sur le plan, il n'y a pas de comparaison. Lafarge est clairement en avance en matière d'innovation. Et la troisième, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est toute la partie management et c'est la partie culture. Et là-dessus, je dirais que c'est un combat permanent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'évolution du monde, émergent de nouveaux concurrents. Et ce que je disais sur l'Inde et la Chine, vous avez en Inde et en Chine des concurrents qui, en termes de nombre de tonnes, vont bientôt rejoindre le groupe Lafarge. Mais ils ne sont présents qu'en Inde ou qu'en Chine. Mais ils peuvent un jour s'internationaliser. Mais bien sûr, ils auront à faire le même travail que celui qu'a fait Lafarge, qui a pris probablement à peu près 50 ans pour apprendre à s'internationaliser dans le contexte local que j'ai évoqué. Mais il est clair que pour réussir, la meilleure comparaison de chacun de nos pays, puisque nous sommes organisés par pays, c'est de nous comparer au meilleur concurrent local. Donc en Inde, on se compare au meilleur indien, qui n'est pas forcément le plus gros, en Chine, au meilleur chinois, et au Mexique, au meilleur mexicain. Voilà. Sur le plan de l'Europe, l'Europe a traversé une crise avec la crise financière, une crise très profonde. Et je dirais les pays développés en général. Je prends juste l'indice 100 de consommation de ciment au pic d'avant la crise. Les États-Unis ont connu leur pic en 2006, la France en 2008. Et au plus profond, on a touché l'indice 50 aux États-Unis, c'est-à-dire baisse de 50%. Vous voyez ce que c'est que pour une industrie lourde. On est arrivé à 70 en Grande-Bretagne, à 70-75 en France, à 20 seulement en Espagne, 20 en Grèce, peut-être 80 en Allemagne, mais l'Allemagne a connu une croissance très faible de son activité construction depuis la fin de la réunification. Et également en Europe centrale, des baisses très importantes parce que les programmes d'infrastructure se sont ralentis et parce que globalement, la crise financière étant une crise financière, elle a touché l'investissement et notre activité est complètement reliée à l'investissement. Elle est liée à la macroéconomie, mais elle est liée à l'investissement. Et donc l'Europe, pour nous, d'abord, c'est toujours une base d'activité importante. L'Europe de l'Ouest fait à peu près 20% de l'activité du groupe, l'Europe de l'Est un petit peu moins de 10%. Nous attendons la reprise de l'Europe et la meilleure manière que nous puissions le faire, c'est de mettre en place justement toute cette innovation pour faire en sorte que nous remplacions les volumes par de plus en plus de valeur pour la construction. Donc je dirais que en général, l'innovation va servir à faire des constructions de toute nature dans les pays émergents. En Europe, ça sera plutôt des constructions plus durables, plus efficaces sur le plan énergétique. C'est là où nos bétons isolants vont être les plus recherchés et les plus facilement mis en œuvre. Mais il y a encore un besoin de construction d'infrastructures en Europe. Si vous regardez les rankings d'infrastructures, il y a des agences très intéressantes qui ont classé les pays, 150 pays, sur leurs infrastructures. Alors dedans, il y a toutes sortes de choses. Il y a les routes, il y a les voies ferrées, il y a le téléphone, il y a les aéroports, il y a plein de choses. Et j'ai regardé ça. On s'aperçoit que les premiers pays sont des tout petits pays de l'Europe du Nord. La France a le rang numéro 5. Donc la France a déjà énormément d'infrastructures, qualité d'infrastructures remarquables. L'Allemagne est numéro 9, l'Angleterre est 20, les États-Unis sont 25, et puis après, vous avez la Chine, qui malgré tout ce qu'elle a déjà dépensé, est toujours qu'à 70, et le Brésil à 100, sur 150. Donc c'est assez passionnant de voir le programme d'infrastructure. Et vous voyez un barrage, par exemple, hydroélectrique, c'est 2,5 millions de tonnes de ciment, c'est-à-dire c'est la consommation annuelle d'un pays comme, comme le Sénégal aujourd'hui, oui. Voilà, donc je n'ai pas parlé de l'Europe parce que ce n'est pas le cœur de notre... Mais bien sûr que notre programme de leadership s'adresse à l'ensemble de nos marchés, et y compris au marché européen, sur lequel nous essayons de maintenir les meilleures performances, les meilleurs résultats. Et je pense qu'il faut qu'on continue à réussir. Le modèle originel qui a réussi doit réussir et continue à réussir, même dans la difficulté. Donc, c'est un challenge, mais on y arrive.
Jean-David Lévit.
Merci, Président. C'était passionnant de vous écouter. Vous êtes un producteur... global et en même temps, vous l'avez souligné, un acteur local. Alors j'ai envie de vous poser deux questions. Si vous étiez convoqué par le président Xi Jinping à Pékin et par le Premier ministre indien Manmohan Singh. Quel conseil leur donneriez-vous en tant que producteur local avec une vision globale pour le développement de deux pays très différents? Merci.
Alors, au premier, je dirais qu'il faut éviter le surinvestissement dans des surcapacités, qui, à mon avis, ne sont pas générateurs de croissance. Et au deuxième, je lui dirais qu'il faut favoriser la route en béton. Il y a un besoin de programme routier énorme en Inde, et il est clair que la route en béton est clairement la solution la plus durable. Un peu plus cher à l'achat, mais sur la durée de vie, beaucoup, beaucoup plus durable et beaucoup moins cher. Et en plus, dans des climats qui sont extrêmement chauds et en plus extrêmement humides, voilà, c'est mieux que l'asphalte.
André Vacheron.
Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Lafont, j'ai beaucoup apprécié votre exposé précis, dynamique, qui s'inscrit dans l'affiliation d'un remarquable cardiologue qui a créé à Necker l'un des premiers laboratoires de cathétérisme cardiaque dans le service que j'ai dirigé pendant 18 ans. Vous lui transmettrez toute mon amitié. Ma question est la suivante. Avez-vous dans votre staff des architectes?
Alors, nous avons quelques architectes dans nos équipes, mais surtout nous avons dans chaque pays un network, si vous voulez, un groupe d'amis architectes. Et nous avons, dans notre centre de recherche, un programme qui fait que des architectes trouvent la possibilité, avec nos chercheurs, de réaliser des rêves. Vous avez vu l'image d'un grand pont? C'est Mark Mimram. Mark Mimram a créé, jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, ne construit des ponts en acier. Et avec nous, il a commencé à réfléchir à l'usage du béton. Et il a commencé à dessiner des ponts en béton. Il est passionné par les ponts. Et il est en train de... Il a fait toute une étude sur, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme le pont de Florence, c'est-à-dire vous faites une tour, mais vous la renversez, ça devient un pont. Enfin, vous la mettez à l'horizontale et ça fait un pont qui est habité. Donc, vous faites une ville avec un pont. Donc, c'est intéressant. Ricciotti, le MUCEM, c'est 15 ans de coopération sur l'utilisation du ductal, notre béton le plus extraordinaire, le plus résistant, le plus durable, qui n'a pas besoin pratiquement d'armature en acier continu. Et quand la dernière fois que nous avons visité le MUCEM ensemble, je lui ai dit, finalement, est-ce qu'il y a 10 ans, quand tu es venu me montrer le plan du MUCEM, tu pensais que tu allais y arriver? Il m'a dit non, j'en étais pas sûr, mais c'est tout ce que nous avons fait ensemble depuis qui nous a permis d'y arriver. On a fait une passerelle à Séoul, puis après on a fait un autre pont, puis on a fait plusieurs ouvrages. Et finalement, il a réussi à faire cet ouvrage que je vous conseille d'aller voir, parce que ce pont, vous voyez cette passerelle-là qui va entre le musée et le Fort Saint-Jean, c'est 125 mètres sans aucune suspension, et c'est le record du monde. Hein, et en plus, là, comme c'est un matériau extrêmement dense, quand on aurait besoin d'un pont d'un mètre, on n'a plus besoin que de 20 cm d'épaisseur. Vous voyez. Donc on a effectivement des relations avec les architectes et on va encore les développer parce que les architectes, en plus, expriment plein d'ambitions qui nous permettent de repousser les limites, en fait, des possibilités de nos matériaux, de nos solutions.
Je suis sûr que si certains de nos confrères veulent aller voir le MUCEM, qui vaut vraiment la peine, et surtout avoir une visite avec Rudy Ricciotti lui-même, qui est un personnage qui vaut la visite, je suis sûr que Lafarge sera prêt à aider à organiser cette visite. Yvon Gattaz.
Oui, j'ai des liens très anciens avec Lafarge, et j'ai bien connu, vous le savez, Olivier Le Serre, qui était mon grand ami, comme s'en souvient bien M. Bailly, et même ce qui n'est pas connu, c'est que pendant 3 mois, il a accepté d'être le président de Jeunesse et Entreprise, parce qu'il y avait incompatibilité dans mes propres fonctions, donc il a créé l'association que je dirige depuis 27 ans. J'ai visité, grâce à Bruno Lafont, votre centre de recherche de l'île d'Abo, qui est absolument surprenant, même pour un ingénieur, vous avez des matériaux absolument d'avenir, extraordinaires. En plus, j'ai apprécié le climat extraordinaire qui régnait chez vous, comme dans toutes vos usines d'ailleurs. Et nous avons fait une conférence ensemble aux jeunes, avec beaucoup de succès. Vous avez vous-même écrit un chapitre dans ce livre, L'entreprise et les jeunes, qui a beaucoup de succès. Enfin, nous ne sommes pas ici pour exprimer des soutiens ou des amitiés, mais pour poser des questions. Alors, ma question est la suivante. Les jeunes, aujourd'hui, sont plus tournés vers le numérique, et en particulier le web, que vers les matériaux. Alors, comment faites-vous chez Lafarge pour les intéresser à ces vieux matériaux, même s'ils sont extrêmement modernes, et attirer leur attention, les retenir dans votre entreprise particulièrement conviviale?
Ben, c'est un peu ce que j'ai... D'abord, je voudrais exprimer deux choses. La première, c'est ce MUCEM, il avait prévu de... On vient de faire un sondage sur les villes, sur une dizaine de villes dans le monde, pour essayer de savoir en fait ce qui attirait les gens, s'ils aimaient leur ville, s'ils étaient contents d'y vivre, s'ils s'y sentaient seuls. Et en fait, ils ne s'y sentent pas seuls. Ils adorent la beauté de leur ville, donc ils sont passionnés. Ce MUCEM, il était prévu 300 000 visiteurs par an. En 3 mois, ils ont déjà fait 1 million. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste le musée qui attire les gens, c'est la beauté. Et les Marseillais reviennent au MUCEM pour pique-niquer, parce que la terrasse qui est au sommet du musée est extrêmement agréable, elle est très aérée et c'est magnifique. Donc, je veux dire, pour attirer les gens autour de belles choses, si nos matériaux sont beaux, ils pourront être attirés. Alors maintenant, l'entreprise. Plus de 60% de nos collaborateurs travaillent dans des pays émergents qui ne sont pas encore dans la situation que vous décrivez. C'est-à-dire qu'ils ont encore... Ils ont encore une bonne compréhension des matériaux de construction. Et vous savez qu'un milliard d'habitants n'ont pas de logement décent. Donc la première chose qu'ils ont à faire, c'est de construire des maisons. Et donc, quand nous aidons les maçons du Malawi à utiliser des ciments spéciaux pour fabriquer des blocs de construction qui tiennent en mélangeant du ciment et de l'argile, là, on apporte quelque chose, on les rend, et j'en ai rencontré, hein, qui sont extrêmement fiers d'être certifiés Lafarge pour pouvoir faire de la maçonnerie. Bon, et nos collaborateurs, généralement, quand ils rentrent dans l'entreprise, il y en a peu qui en sortent, parce qu'ils sont attirés par les carrières qu'on y propose, parce qu'ils sont attirés, effectivement, pas juste, là, encore une fois, hein, c'est pas de la philanthropie, mais c'est vrai qu'ils ont des possibilités. Celui qui veut réussir chez Lafarge a plein d'opportunités. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais vous avez raison que les solutions de construction doivent être des solutions qui soient quand même de plus en plus humaines, qui prennent de moins en moins de temps. Et c'est pour ça que certains de nos bétons, par exemple, qui ne sont plus vibrés, sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Vous les mettez en place comme si vous couliez et renversiez une crème au chocolat sous vos pieds, alors qu'autrefois, il fallait secouer toute la matière pendant des heures. Donc, et ça, c'est des bétons complètement innovants qui permettent de faire en sorte que la construction se passe mieux, plus facilement, avec moins de main-d'œuvre et plus rapidement.
Jean Béchler.
Merci, Monsieur le Président. Un point de détail, mais qui pourrait avoir son importance. Vous avez, à un certain moment de votre exposé, fait allusion au cycle de vie, je ne sais pas si c'est l'expression que vous avez utilisée, des bâtiments. Et la fin de vie, c'est le recyclage. Alors, pouvez-vous nous préciser quelle est la proportion du recyclable et que devient ce qui n'est pas recyclable ou recyclé?
Alors, il n'y a pas des statistiques formidables là-dessus. Nous, on a l'ambition que 20% de nos bétons soient faits avec des matériaux recyclés. Mais pour vous donner un exemple plus concret, vous savez qu'à Marseille, il y a pas mal d'ouvrages, on détruit des routes suspendues, on les remplace par des tunnels, etc. Et ce type de démolition se passe dans plein de villes. On est en train de faire exactement la même chose à Rio. Lafarge, avec ses carrières, a la possibilité d'emmener tous ces matériaux dans ses carrières, de les retraiter et de les réutiliser, notamment tout le béton, dans des produits moins nobles que les granulats qui servent à faire du béton, mais dans des matériaux qui servent notamment pour la route ou les soubassements de voies ferrées. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Et on a des installations qui sont de plus en plus grandes. Alors on en a au Brésil, on en a au Canada, on en a en France, et on va les multiplier. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire que de plus en plus de matos soient recyclés. C'est pas évident, parce qu'il faut séparer les choses quand même. Il faut séparer l'acier du reste, il faut séparer le plâtre du béton. Mais on y arrive.
Bernard, bonjour.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous n'êtes pas seulement un bâtisseur d'immeubles, de monuments, de villes. Vous êtes un bâtisseur, vous avez été un bâtisseur d'un très beau discours. Je ne sais pas de quel béton il était, mais en tout cas, il était d'un béton intelligent et je voulais vous dire combien j'ai admiré l'exposé que vous nous avez fait. Ma question est la suivante, elle porte sur l'urbanisation et votre rapport à l'urbanisation. L'urbanisation a été effectivement, les philosophes, même les plus idéalistes l'ont connu, un phénomène majeur, peut-être le phénomène majeur de l'histoire moderne. Je n'aurai pas la discourtoisie de vous demander si votre idéal des villes meilleures est un idéal de votre métier, de votre entreprise, ou si vous avez cherché à définir votre entreprise en fonction d'un idéal que vous auriez adopté peut-être pour d'autres raisons. Non. Ma question est la suivante. Vous avez parlé des villes meilleures. Alors, je m'adresse, puisque vous avez, à très juste titre, souligné l'importance pour un homme, et par exemple pour vous, de relier les trois. Je ne m'adresse pas d'abord à l'industriel, mais à l'architecte, et plus profondément, en l'humaniste, qui doit bien être en vous, qui est en vous et dont vous avez fait l'éloge. Qu'est-ce que vous, industriel, architecte, bâtisseur, humaniste, qu'est-ce que vous entendez par des villes meilleures ?
Alors, nous avons... Quand nous avons revu notre signature récemment, effectivement, on a cherché comment notre ambition, qui était une ambition d'innovation, etc., se reliait au challenge du monde. Hein, et le challenge du monde de l'urbanisation est un challenge qui est évidemment suffisamment important. Et pour lui donner des directions et qui soit associé à notre business, effectivement, on s'est posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire des villes meilleures ? Et c'est pour ça qu'on a parlé de villes plus compactes, de villes plus accueillantes, de villes mieux connectées, de villes plus durables et de villes plus belles. C'est comme ça qu'on les mentionnait. Et ceci, qu'est-ce que ça change ? Ça change pour moi que quand je voyage maintenant dans les pays où je vais, bien sûr, je vais toujours dans mes usines, mais je passe une partie de mon temps de voyage sur des chantiers. Et la semaine dernière, vous voyez, j'ai passé 2 heures en voiture dans le township de Soweto. Et puis, je sais que l'année prochaine, je passerai certainement 2 heures dans les bidonvilles de Nairobi, parce que je pense qu'on a des solutions à apporter. Vous voyez, je suis sorti de Soweto avec des idées. Et ces idées, je les ai partagées avec nos équipes. Et on sait qu'il y a des choses qui peuvent être meilleures. Oui. On sait que Johannesburg est une des villes les plus étalées. Elle est 2 fois plus étalée que Paris ou Londres. Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de lignes de bus. On sait que dans l'exemple que j'ai donné sur Bègles, dans la Gironde, qui est une ville tout près de Bordeaux, que vous connaissez bien, pour accueillir 600 nouveaux habitants, ils ont eu seulement 800 mètres de route à faire. C'est un rapport formidable. Ça, c'est une ville plus durable, plus compacte mais aussi plus belle parce que les habitants sont à 2 minutes de l'école et à 2 minutes de l'arrêt du tramway.
Jean-Jean Issoutou.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais vous demander si les variations monétaires ont une influence ou des conséquences sensibles pour un groupe tel que le vôtre, et si c'est le cas, avez-vous une stratégie, ou plutôt quelle est votre stratégie ou votre ensemble de stratégies pour contrôler cela? Merci.
Alors, bien sûr, nous avons une sensibilité par rapport aux monnaies. La stratégie, je dirais qu'elle est à peu près la même que celle qui nous permet de manager nos risques. Vraiment, le groupe essaie d'avoir le portefeuille le plus équilibré possible. Il y a en gros pas plus de 5% de son activité pour l'instant dans chaque pays émergent. Et ça nous permet effectivement de balancer notre risque. Si on était à 50% en Inde ou en Chine, on serait beaucoup plus vulnérable aujourd'hui qu'on est resté finalement important, mais toujours modeste quand même, relativement, dans ces deux pays. Et puis par ailleurs, pour ce qui est de cette situation financière précise, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est que notre endettement soit le plus possible dans la monnaie de nos cash flows. Voilà. Mais alors, ce n'est pas encore complètement facile dans tous les pays. On ne peut pas s'endetter à moyen terme ou à long terme dans toutes les monnaies aujourd'hui.
Marianne Bassine-Bruguière.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question concernant vos efforts pour le développement durable. Une des critiques qui sont portées généralement contre les groupes qui fabriquent des matériaux de construction, votre groupe mais d'autres aussi, c'est que pour faire du béton, il faut du sable, et que pour extraire le sable, on ouvre des champs entiers de carrières. Et je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui avec les nouveaux procédés. Est-ce que vous utilisez moins de sable, ou est-ce que vous pouvez utiliser du sable de mer et non pas du sable continental? Comment est-ce que vous agissez? Parce que pour faire le béton, il faut quand même bien du sable.
Alors, il y a deux solutions. La première, c'est effectivement d'aller chercher du sable dans la mer, ce qui n'est pas... ce qui reste aussi compliqué, parce que nous sommes parfois très... très contrebattu dans nos efforts d'obtenir des permis pour tirer des sables marins, alors qu'il est connu que le sable, c'est juste quand même quelque chose qui a été fabriqué naturellement par la mer. Et la deuxième chose, c'est de faire de plus en plus de recyclés. C'est ça qui... c'est-à-dire de recycler de plus en plus de matériaux possibles. Mais bien sûr, ça a une limite. Et tant qu'il y aura de l'activité humaine, il faudra extraire des carrières. Et la réponse que nous apportons, c'est d'avoir une approche de l'activité d'exploitation de carrière la plus respectueuse de l'environnement possible. C'est-à-dire, quand on ouvre une carrière, on a déjà un plan de réhabilitation. Quand on manage une carrière, on a un plan de management de la biodiversité. Tout ça est en place chez Lafarge. Et généralement, ça donne des résultats qui sont parfaitement, qui permettent quand même d'apporter des solutions à la question de la protection de l'environnement. En tout cas, nous sommes considérés comme exemplaires pour cela. Seul problème, alors ça c'est juste pour l'anecdote, c'est que plus on devient exemplaire en matière de biodiversité, plus on a envie que la carrière s'arrête pour pouvoir laisser les espèces qu'on a encouragées à trouver refuge dans nos carrières à ne plus opérer.
Guylaine Anavlenine.
Après les cycles de vie dont on a parlé tout à l'heure, je vous poserai une question sur les cycles économiques. Vous avez magnifiquement parlé de l'innovation, qui n'est pas que des sciences et des technologies, mais aussi pour vous un état d'esprit, donc avec l'excellence professionnelle, la différenciation, le socle des valeurs ajoutées. Tout à fait, qui est la troisième dimension, j'oserais dire, du développement durable, qui répond au HS2, qui est la haute sécurité santé, comme on a eu dans la deuxième dimension, le HQE. Mais pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait un processus de destruction créatrice comme dirait notre fameux économiste Joseph Schumpeter. Alors, quelle est la première, et pour vous, la prochaine rupture dans votre domaine? Et pour être très simple, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'électricité. Alors, quelle sera, dans votre domaine, la prochaine grande innovation?
Alors, je vais vous répondre de manière très... très, très franche, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. En revanche, ce que nous savons, c'est qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire toutes les innovations qu'on a faites depuis 20 ans, et on sait pourquoi on n'a pas pu les faire il y a 50 ans, mais seulement il y a 20 ans. Et qu'en revanche, il y a effectivement un phénomène d'ébullition assez général au sens recherche et innovation, quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis, et qui viennent de la capacité de voir de plus en plus petit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous veillons. C'est-à-dire que nous avons maintenant une attitude par rapport à toutes ces, voilà, tout ce qui se passe, tout ce qui court. Et c'est pour ça que récemment, on a fait une alliance avec une start-up, justement, qui allait nous permettre d'ouvrir de nouvelles pistes sur l'élimination de CO2 dans la production de ciment, justement à partir d'une start-up qui avait cherché dans un domaine. Et là, on est vraiment en piste. Mais je pense que c'est vraiment ça. J'ai visité l'autre jour un laboratoire d'une école parisienne où il y a beaucoup de chercheurs. Et je veux dire, j'ai été impressionné. Ça n'avait aucun rapport avec les matériaux, mais il y avait plein de rapports, en fait, avec ce que je vois. Je pense que la science est en train de... Et on ne sait pas très bien.
Jean-Claude Casanova.
Merci. Monsieur le Président, je voudrais vous poser une question à propos d'un terme que vous avez plusieurs fois utilisé, qui est celui d'une tendance historique vers la concentration dans les villes. Je vois bien le mouvement qui se produit dans le monde en développement, mais il est précédé d'un mouvement historique inverse, qui a été plutôt de déconcentration, les gens ayant quitté aux États-Unis, par exemple, le cœur des villes pour habiter dans les suburbs. Alors, est-ce que vous êtes sûr que... Je vois bien le problème de prix relatifs. Les prix relatifs conduisent à la concentration, l'évolution des prix relatifs. Mais est-ce que c'est ce que les gens veulent vraiment? Parce qu'il y a toujours une distance entre ce que les gens projettent et ce qu'ils souhaitent. On l'avait déjà remarqué pour Le Corbusier. Il construisait des tours, mais il habitait le 7e arrondissement.
Oui, mais je crois que là, il y a une question... Je comprends très bien ce que vous dites, mais il y a une question de ce qu'on veut et de ce qu'on peut. C'est-à-dire, je pense que ce qu'on peut, ce que la population mondiale peut d'ici 2050, c'est plutôt ce que nous disons, et qu'il y a quelque chose qui se rajoute dans la thématique, c'est qu'une agglomération comme Los Angeles, il n'y a rien de plus... Voilà. Par rapport au développement durable. Donc, ça veut dire qu'il faudra réfléchir de toute façon.
Je vais faire une exception au protocole de l'Académie en donnant la parole à Laurence Parisot qui voulait vous poser une question.
J'avoue que je ne connaissais pas le protocole. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette exception. Et merci aux membres de l'Académie. Ce que vous avez expliqué, présenté est passionnant et je pense que nous devrions être tous très fiers d'avoir en France une entreprise aussi performante et aussi prometteuse. Vous avez très bien expliqué à quel point Lafarge était une entreprise mondiale. Vous devez donc avoir des relations avec une multitude de gouvernements, de chefs de gouvernement et de chefs d'État. Pouvez-vous, à partir de votre expérience, faire une typologie des types de relations entre une grande entreprise et les gouvernements dans les pays dans lesquels se trouve cette entreprise et nous dire dans quel type la France se situerait? Hors tendance partisane.
Alors, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va... Je fais partie de quelques groupes de pays que j'appelle plutôt de pays en croissance, puisque le président du Nigeria a un conseil des entreprises étrangères qui est réuni deux fois par an. le maire de Chongqing et plusieurs maires chinois ont des conseils de grands patrons autour d'eux qui se réunissent fois par an. Moi, je fais partie du maire de Chongqing, qui est la plus grosse ville du monde. Monsieur Poutine, ou le Premier ministre russe, a également un conseil des investisseurs étrangers qui se réunit une journée par an. Et cette attitude fleurit, effectivement, dans les pays en croissance. C'est-à-dire que les chefs de gouvernement ont très bien compris l'intérêt qu'il y a à coopérer, à partager, à, bien sûr, attirer les investissements. Et c'est vrai que ça donne confiance. Ça donne confiance à l'investisseur, ça donne confiance à... et je suis sûr que ça a des conséquences même sur l'attitude des gouvernements, et on le voit quand on est depuis un certain temps. Et autre chose que je voudrais vous dire, c'est que depuis qu'on a lancé notre signature « Construire des villes meilleures », ben, il n'y a pas de meilleur sujet de conversation avec un chef de gouvernement. C'est un sujet, ça marche tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est sa préoccupation majeure. Je l'ai encore vu la semaine dernière que j'ai passé en Afrique et deux semaines plus tôt dans une autre région du monde. Et parce que effectivement, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, sur la normalisation, sur la standardisation, sur la façon de tout simplement de mettre les forces en ordre pour. Et il y a des gouvernements étrangers qui, par rapport à la ville, ont des attitudes remarquables. Je veux dire, par exemple. La France devrait aller voir le musée qui est à Alger, qui est un musée de 4 étages, qui est au centre d'Alger et qui montre d'une manière exemplaire comment le Grand Alger est conçu et comment il va se développer. C'est-à-dire, si on pouvait faire un grand pari comme ça, ça serait formidable. Donc il y a plein de leçons à prendre, effectivement, dans beaucoup de pays étrangers. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que...
Bien, merci beaucoup. Vous nous avez fait passer une après-midi très intéressante. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous faire des compliments après tous les confrères qui l'ont fait. Mais mes confrères comprendront combien je suis heureux et fier de voir que vous conduisez la Farge dans ce monde qui change avec une énergie et une intelligence que vous nous avez démontré cet après-midi. Et je ne voudrais pas terminer la séance sans saluer M. Amar Benjema, l'ambassadeur d'Algérie en France, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir et que nous remercions. L'Algérie est importante, un pays important pour la Farge, mais l'Algérie est aussi un pays important pour la France. Je suis très heureux qu'il nous ait rendu visite. Voilà. Merci beaucoup. La séance est levée.